Donc, Roland, tu nous as un petit peu résumé ton parcours personnel. J'avais encore juste une question à te poser là-dessus. C'est que, donc, on l'a dit au début, tu es psychanalyste. Est-ce que pour toi, la psychanalyse, plus précisément la clinique, qui est tellement importante dans ton parcours, apporte des éléments de compréhension de la société, des sujets, que le politologue, le sociologue, le philosophe pourraient ne pas avoir. Voilà. Donc, qu'est-ce que ton expérience de thérapeute apporte à ton travail d'écrivain?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que je crois que d'entendre des sujets parler de leurs rêves, parler de leurs symptômes, parler de leurs difficultés relationnelles, parler de leurs difficultés sociales, révèle énormément de choses sur le champ social, sur les règles du jeu social. Et qui plus est, je dirais que depuis quelques années, c'est ce qui me frappe aussi, c'est que les patients apportent beaucoup plus qu'avant des difficultés dans le domaine professionnel, dans la vie professionnelle, moins peut-être dans leur vie relationnelle, amoureuse, sexuelle, affective. Quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir, je dirais, une clientèle très diversifiée au niveau des métiers, très diversifiée au niveau des origines sociales quand même. Et cet éventail fait que je crois qu'à contrario d'un philosophe, peut-être quand même d'un sociologue, j'ai cette floraison de situations sociales dans laquelle les sujets humains sont impliqués et où ils jouent en partie leurs symptômes, mais ils jouent aussi en partie leur capacité de créer, de vivre, d'inventer. Donc ça, de toute façon, c'est comme ça. Je veux dire, si je parle de l'hôpital, c'est pas seulement par rapport à ma modeste expérience que j'ai eue dans le domaine, ou même par rapport aux expériences que j'ai pu avoir de supervision d'équipes hospitalières, ou bien de ce qu'ont pu me raconter mes proches qui travaillaient à l'hôpital, c'est aussi tout ce qu'apportent pas seulement les psychiatres, pas seulement les psychologues, pas seulement les infirmières, mais aussi les médecins, les chirurgiens, etc. Et où on s'aperçoit aujourd'hui quand même qu'il y a une brutalisation des rapports sociaux dans ces institutions. De la même manière, ça m'a beaucoup frappé de constater, grâce à mes patients d'ailleurs, que ce qui pour moi pouvait apparaître comme une vocation professionnelle dans le domaine, par exemple, de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la recherche, aujourd'hui pouvait être remis en cause par des générations qui, après avoir été prof de collège ou de lycée, ont tout à fait envie de faire autre chose et quittent la carrière. Donc, en gros, j'ai la chance, ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir un âge qui fait que j'ai pu voir défiler dans mon cabinet pas mal de monde, pas mal de professionnels, et de pouvoir constater un certain nombre d'évolutions aussi dans les mentalités, dans les valeurs, dans les engagements. Et ça me paraît important. Et il est évident que, par exemple, tout ce que je peux dire de cette normalisation aussi des professionnels, je le tiens, je le déduis de ce que je peux entendre des patients en très grande souffrance qui, aujourd'hui, sont complètement brutalisés par des normes formelles, par des évaluations quantitatives, par un management, par la terreur et par la peur, qui étaient dans le champ qui est le leur, tout à fait impensable il y a 30 ans. Et donc, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, je pouvais davantage recevoir un jeune sujet en souffrance parce qu'il était homosexuel et qu'il devait le cacher à sa famille, et beaucoup moins un prof écœuré de son travail dans des conditions effroyables, ou bien un médecin sous pression d'une hiérarchie technico-administrative stupide et sourde à ce que peut être le soin. Donc il y a cette dimension-là. J'ai un peu l'impression, pour lire peut-être une phrase théorique, que les enveloppes formelles des symptômes se sont quand même modifiées. Donc ce n'est pas forcément la structure qui s'est modifiée, mais c'est davantage, il me semble, les enveloppes formelles des symptômes. Et je crois aussi quand même que, on le voit chez Freud par exemple, le texte freudien n'est pas simplement un texte clinique, il est d'abord bien sûr un texte clinique, il est d'abord bien sûr un texte métapsychologique, il est comme on dit, il est d'abord bien sûr un texte de théorisation de la pratique analytique, mais il est aussi une mine inépuisable pour le sociologue, le philosophe, ou tout simplement le citoyen qui, comme moi, veut réfléchir sur la vie sociale à Vienne ou à Paris à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et on a aussi dans le texte tous les apports sur justement les mentalités, sur la manière dont les normes permettent l'advenue des sujets et leur maltraitance quelque part. Peut-être pour terminer sur ta question, ça c'est en termes, on va dire, substantiels. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on entend comme ce qu'on lit, effectivement, apporte quand même un matériel considérable sur le champ social. Et je pense que dans le dispositif analytique, il y a beaucoup à entendre aussi de cette réalité sociale. À mon avis, c'est tout à fait évident. Alors, ça, c'est sur un plan substantiel. Après, il y a le plan que j'appellerais plus de position de soi-même par rapport au savoir. C'est que moi, j'ai besoin, par exemple, de la psychanalyse pour ne pas me prendre trop longtemps dans les illusions de la maîtrise rationnelle du monde, par exemple. De la maîtrise de l'écriture, qui est quelque chose de fantastique, bien sûr. C'est-à-dire que, en gros, ma pratique analytique, elle me ramène à la réalité mélancolique qui constitue le sujet humain. C'est-à-dire que par l'écriture, comme par l'action sociale ou par l'enseignement, je peux m'exalter, je peux me prendre dans des tas de séductions de savoir, de séductions idéologiques. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important. La CIA, ça me permet de remettre un peu les choses à leur place. C'est-à-dire justement de me déprendre de toutes les illusions narcissiques qui constituent des miroirs aux alouettes dans lesquels nous sommes tous prêts à aller. Il y a là, pour moi, quelque chose d'important. Je dirais que l'action sociale ou l'écriture m'exalte et que la pratique analytique a le mérite de me déprimer. Et donc, c'est à partir de cela qu'on peut rêver, qu'on peut penser sûrement. Et puis, encore une fois, il y a quand même aussi cette réhabilitation de la parole que je prône dans le milieu social et politique, qui est quand même au cœur de la psychanalyse, puisque dans la pratique analytique, il ne s'agit pas de comprendre ce que les gens racontent, ça on peut le comprendre comme n'importe qui, hein, pour aller vite, mais il s'agit d'entendre et de leur permettre d'entendre. Et donc c'est un autre type de discours et d'écoute, c'est un autre type de rapport à la parole. Je cite souvent ces vers de René Char depuis très longtemps dans mes ouvrages, hein, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Donc en gros, ça permet aussi d'entendre que, quelles que soient les intentions qu'on peut avoir, quel que soit le sens qu'on peut donner aux choses, quelles que soient les raisons que l'on peut comprendre, quels que soient les motifs d'explication dont on peut rendre compte, il y a quelque chose qui échappe à cette maîtrise du monde et qui est au cœur de l'analyse. Et donc, il y a là quelque chose d'important, quelque chose d'important aussi qui réhabilite la mémoire. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société du présentisme, de la réactivité, de l'amnésie. Et là, je crois que vraiment la psychanalyse fait partie, c'est pas le seul, hein, mais d'un ensemble de savoirs qui est fondamentalement, de mon point de vue, anti-libéral. Parce que si on a une pratique analytique, comment est-ce qu'on peut penser que la valeur est simplement le produit de la quantité, ou le produit de la conformité, ou le produit même du consensus? Ça n'a pas de sens.
Bon. Ce rapport entre la psychanalyse et le libéralisme, cette opposition entre les deux que tu viens d'esquisser, elle est au cœur du bouquin « L'individu ingouvernable » que tu as publié en 2015 au Lien qui libère, qu'on trouve aussi en édition poche chez Actes Sud. Tu fais une critique que je qualifierais de féroce mais juste, du libéralisme. Tu montres que le libéralisme, au moment de son apparition, fin 17e, début 18e, et surtout au moment de son triomphe grâce à la Révolution française, ce libéralisme était porteur d'un idéal d'émancipation du sujet. Cette promesse d'émancipation se traduit dans le champ politique. L'individu devient citoyen, il devient affranchi des normes de la tradition, des normes de la religion, de certaines normes du monde du travail. Bref, tu montres que la psychanalyse, apparue au tournant du 19e et du 20e siècle, vient mettre en lumière le décalage qui existe à ce moment-là et qui existe encore aujourd'hui entre cette promesse d'émancipation et la réalité du monde du travail notamment, et qu'aujourd'hui on est, alors même, là je passe aussi sur ton livre plus récent Un monde sans esprit qui est sorti au mois de janvier 2017, où en fait aujourd'hui au fond tout ce qu'on a créé pour rendre ce monde vivable est en train d'être très patiemment déboulonné. À quoi ça aboutit? Ça aboutit à plusieurs choses, et c'est toutes ces choses-là que tu dresses comme constat. Une violence généralisée, une violence incroyable dans les rapports sociaux entre les individus. Pourquoi est-ce que tu affirmes que, contrairement à ce que tout le monde dans le champ médiatique affirme, le libéralisme ne s'oppose pas au totalitarisme, mais qu'il est une certaine forme de totalitarisme que tu appelles le technofascisme, qu'il est lié, tu vas peut-être pouvoir me corriger sur ça, qu'il est lié à ce que tu appelles le technofascisme. Alors qu'est-ce que c'est que ce technofascisme? Qu'est-ce que c'est que ce totalitarisme dont tu parles?
Vaste question, hein.
Oui.
je vais peut-être essayer de prendre un peu les choses de manière oblique pour essayer de répondre à ta question. Bon, je crois qu'il y a un premier point qui est effectivement extrêmement important. De la même manière que Marx considère par exemple que le capitalisme a des éléments positifs puisqu'il déstructure les organisations féodales, de la même manière, on peut considérer que le libéralisme philosophique est même inscrit ensuite effectivement dans la société et ses rapports de force productive, que le libéralisme est à des points très positifs, puisque c'est non seulement un discours d'émancipation, mais qu'effectivement il va permettre l'émancipation des forme d'autorité religieuse royale ou féodale, etc. Donc, je dirais que les idéaux libéraux de liberté d'individu, de sujet, de citoyen, d'autonomie, ce ne sont pas de même négatif. Le texte de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?» est formidable. C'est « Sors de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même, hein, et ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale. Bon. » Donc, il va de soi que ces idéaux de liberté, et porte, par exemple, comme tu le sais, tous les mouvements romantiques, nationalistes, au sens noble du terme, de la première moitié du XIXe siècle, 1830, 1848, le printemps des peuples, et se nourrit complètement de ce message des Lumières, et la Révolution avec Saint-Just disant « le bonheur est une idée neuve en Europe ». Bon, on voit bien que il y a quand même quelque chose d'important, c'est que si vous voulez vivre, n'attendez pas le temps d'après la mort, commencez par vivre sur Terre, n'attendez pas les cieux. La vie n'est pas qu'une vallée des larmes, à vous de vous débrouiller, d'en faire un bonheur partagé. Mais alors, à la manière d'Anna Arendt, cette liberté-là, elle requiert la présence d'autrui. Elle est le bonheur public, elle est un bonheur qui s'inscrit dans le domaine de la décision de la responsabilité politique. Bon, alors, pour répondre à ta question, ce dont le technofascisme nous prive complètement, puisque ce que j'appelle le technofascisme, pour aller très vite, c'est l'existence de ce que Umberto Eco appelle le fascisme primitif, c'est-à-dire le noyau fasciste qui est la prescription de comportements par une structure à laquelle on ne peut pas échapper et qui peut s'envelopper de n'importe quelle idéologie. Et aujourd'hui, ça ne va pas être, bien sûr, tellement, ça peut redevenir d'ailleurs, mais la nation, ça va pas être telle ou telle entité transcendantale, ça va être tout simplement ces procédures, ces dispositifs dans lesquels nous sommes pris et dont nous ne pouvons pas nous échapper, qui finalement nous assujettissent dans la mesure où ils confisquent notre capacité de penser, de décider, de raisonner, de partager, en donnant toutes les instructions auxquelles nous devons nous plier pour simplement répondre aux exigences d'un programme ou d'un logiciel. Donc,
pour donner juste un exemple très concret pour les gens pour qui ce ne serait pas forcément clair, c'est l'exemple de l'infirmière, c'est un exemple qui te tient à cœur, que tu prends souvent, l'exemple de l'infirmière qui a choisi ce métier pour s'occuper des gens, pour apporter un petit peu de douceur et de soin, au sens le plus noble du terme, autour d'elle, et qui se retrouve à devoir passer plus de temps à remplir des rapports qu'à s'occuper des patients, et à devoir chronométrer la toilette des patients.
Et à qui on va prescrire d'ailleurs tous les actes, tous les comportements qu'elle doit faire pour répondre en temps voulu aux exigences de score et de normes. C'est-à-dire que, en gros, le métier, tous nos métiers deviennent un métier tarifé. Donc il y a une espèce de prostitution, je dirais, de nos métiers par la religion du marché. Parce que, bon, le terme de technofascisme, il vient de Pasolini, d'ailleurs. Je le reprends de Pasolini, et Pasolini l'articule bien aussi à la religion du marché. Mais il montre bien que, en gros, à un moment donné, la technique va confisquer nos droits à penser. C'est-à-dire va mépriser ce que Camus appelait aussi les droits de la pensée humiliée, c'est-à-dire les droits de l'imagination, les droits de la création, les droits subjectifs et sociaux, en nous transformant en fragments de comportements déterminés par un mode d'emploi. Bon, alors effectivement, enfin, mais pour prendre un exemple très simple qui m'a été transmis d'ailleurs par Marie-José Del Volvo, qui donne l'exemple suivant d'un écrivain qui est passé sur France Culture, qui a été infirmière un temps, et on lui demande quand est-ce qu'elle a abandonné son métier d'infirmière, quand est-ce qu'elle a démissionné. Et elle donne l'exemple suivant qui est très touchant. Elle dit qu'elle travaillait dans un service donc aux pédiatries, c'est des services très lourds. Il s'agit de prendre en charge des enfants cancéreux et leur famille. Et une jeune fille de 16 ans venait de mourir. Et elle se trouve à un moment donné accompagner le cadavre de cette jeune fille avec les ambulanciers, les parents, dans l'ascenseur. L'ascenseur tombe en panne et elle est bloquée, je ne sais plus, c'est une heure ou deux heures dans cet ascenseur. Et finalement, on peut imaginer ce qu'elle a pu vivre de cette expérience-là. Le lendemain, elle est convoquée par son cadre santé, et donc elle pense qu'on va lui demander ce qui s'est passé, on va lui demander comment elle a vécu cette expérience horrible d'être en présence du cadavre de la jeune fille qu'elle a soignée, de l'ambulancier et des parents surtout. Eh ben non, on lui met un blâme, un avertissement, pas un avertissement, parce qu'elle a oublié sur un flacon de coller la deuxième étiquette. Je crois que ce truc monstrueux, c'est un truc que vivent, ça, je peux te le dire, tous les professionnels. C'était une surdité complète à ce qu'est l'expérience humaine, à ce qu'est la vie, tout simplement. Nous sommes dans un univers dévitalisé. Nous sommes dans un univers, encore une fois, où nous avons perdu même le bon sens des choses. Pour prendre encore un autre exemple, c'est quand on voit, par exemple, cette recherche de certains universitaires d'Oxford qui ont mis en évidence que l'impact de la logique austéritaire sur les hôpitaux de Grande-Bretagne, sur les hôpitaux anglais, ont produit pour la seule année 2015 une surmortalité de 30 000 décès. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, chaque fois que nous faisons une évaluation à la con, qui est complètement débile la plupart du temps, il faut bien le dire aussi, que ça soit à l'université, dans les hôpitaux, dans les salles de rédaction, dans les centres culturels, dans les tribunaux et ailleurs, il y a un biais méthodologique énorme qui ferait hurler n'importe quel épistémologue. On ne tient pas compte des conséquences à moyen ou à long terme. Et qu'aujourd'hui, on va compter le nombre d'articles publiés dans des revues à fort impact factor, on va compter la tarification à l'activité des actes médicaux, on va compter le nombre de gens qui vont se brancher sur ton blog, on va compter le nombre de lecteurs du Monde Campus, mais on ne va absolument pas tenir compte des effets que ça peut produire à moyen ou à long terme. Donc il y a quelque chose qui est fallacieux en termes scientifiques. Ce n'est pas de la science. Hein. Ça ressemble à la science parce qu'il y a des chiffres, ça a le goût de la science, mais ce n'est pas de la science. Hein. Et là, il y a quelque chose d'absolument terrifiant. Alors, bon, pour en revenir donc, au libéralisme, je crois qu'il y a eu dans le libéralisme un message porteur d'espoir, un message de révolte, un message d'anticipation. Il y a eu, on va dire pour aller vite, il y a eu un romantisme dans le libéralisme, même si ce romantisme est plutôt aristocratique au début du 19e, on voit bien comment au milieu du 19e et dans la deuxième moitié, il peut être porteur de quelque chose qui s'oppose aux conservateurs, qui s'oppose, pourrait-on dire, aux forces réactionnaires, qui s'oppose à tout ce qui veut restituer l'ancien régime ou le passé. Le libéralisme, là, est quelque chose qui veut aller vers un avenir d'émancipation, vers un avenir de liberté. Alors, le problème, c'est que ce message-là est un message qui se révèle menteur, mais encore une fois, une illusion n'est pas forcément que du mensonge aussi. Hein. L'amour est une illusion, même si elle produit du mensonge, elle n'est pas mensonge simplement. C'est plus compliqué. Le libéralisme, c'est pareil. C'est qu'à mon avis, le libéralisme apporte beaucoup de choses. Il apporte la possibilité de s'appuyer sur des idées, sur des mouvements pour se détacher de l'ancien monde. Mais, encore une fois, il se révèle menteur. Pourquoi ? D'abord, parce que le sujet n'est pas maître en son logis, comme dit Freud. Le moi n'est pas maître en son logis. Donc ça veut dire que, effectivement, et ça c'est un peu dans l'individu ingouvernable, on voit bien comment c'est pas n'importe quand qu'émerge la psychanalyse. La psychanalyse émerge comme savoir et comme pratique au moment où il faut rendre compte qu'il y a des forces qui échappent à la raison, qui échappent à la loi morale et qui contraignent le sujet en lui à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc il y a une part d'obscurité. Toute la deuxième moitié du 19e siècle constate au niveau des disciplines scientifiques l'existence justement de forces qui échappent à la volonté, qui échappent à la raison individuelle. Et on peut dire que la sociologie de Durkheim, c'est quand même de constater qu'on peut se suicider pour d'autres raisons que l'individu, puisqu'il existe des forces dans le champ social, il y a des sociétés suicidogènes qui produisent donc du suicide dès lors qu'il y a anomie ou dérégulation sociale.
Alors ça, je renvoie vraiment les gens qui nous écoutent à l'individu ingouvernable, dans lequel tu fais vraiment une histoire de l'émergence de la psychanalyse et, en règle générale, de toutes ces sciences humaines, la sociologie, etc.
On s'aperçoit que déjà, dans le champ relationnel, psychologique, social, les individus ne sont pas, ça n'existe pas l'individu. Il est ingouvernable parce qu'il n'existe pas. Mmh. L'individu, en tant que non divisible, bah, il est divisé. Et en tant qu'autonome, il n'est pas autonome, puisque de toute façon, il est déterminé par son besoin d'être reconnu par autrui. Donc, il y a ça. Et alors, au niveau de la psychanalyse, le coup de génie de Freud, à mon avis, c'est de dire, oui, c'est vrai, il n'y a pas que la volonté, il n'y a pas que la raison, il y a une contre-volonté. Le patient guérit, mais il ne veut pas guérir, et il retombe malade parce qu'il a besoin. C'est-à-dire, on s'aperçoit aussi que ça n'est vrai que pour une part infime de la population que de pouvoir décider, par sa raison, être autonome et se conduire selon sa loi morale, puisque la plupart du temps, de par l'industrialisation, l'urbanisation, le travail dans les manufactures, le travail qu'exige justement la deuxième révolution industrielle, le sujet n'est plus que le prolongement de l'instrument qu'il sert. Et donc, en gros, on se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines, comme disait Simone Weil.
Avec la psychanalyse, on se rend compte que et pas seulement la psychanalyse, c'est le moment où on se rend compte qu'il y a là-dedans une illusion, certes consolatrice, mais une illusion. Finalement, on pourrait dire que le libéralisme repose lui aussi sur l'idée de force qui échappe à l'individu. C'est là où il y a tout de même un paradoxe, puisqu'il y a toute cette théorie de la main invisible, des forces du marché, etc. etc. Donc finalement, comment est-ce que le libéralisme peut-il se tenir comme ça entre ces deux chaises, d'un côté l'individu rationnel libre et de l'autre les forces, les lois du marché qui s'imposent à lui et qui le guident, quoi.
Bah, je crois que c'est une vieille histoire qu'on a déjà dans la fable des abeilles de Mandeville, c'est-à-dire cette idée que ce sont les vices privés qui font les vertus publiques. Et ce sont les intérêts individuels, donc la volonté de l'individu, elle va paradoxalement s'harmoniser par une loi invisible du marché, mais qui a un peu ce mystère, mais alors tu as raison, c'est un paradoxe, mais c'est en même temps le mystère selon lequel les intérêts individuels concourent au bien public. Alors, on peut le voir aujourd'hui, par exemple, ça, au niveau de l'importance dans nos sociétés du consensus. La vraie opinion politique, la vraie politique, est déterminée par un consensus, c'est-à-dire par le marché des opinions. Donc la bonne opinion est l'opinion du marché. Et ça, c'est très important, parce que, par exemple, quand tout à l'heure on parlait de la psychiatrie, ou de la psychopathologie, on voit bien comment le DSM, donc ce manuel diagnostique 3, hein, qui est fabriqué entre 1967 et 1980, on voit bien comment il va reposer sur la nécessité d'un accord interjuge. Donc il ne va pas chercher à savoir si le diagnostic est bon en tant qu'il définirait une réalité clinique de souffrance, on s'en fout, mais il est bon parce que les gens sont d'accord. Donc en gros, ça veut dire que si on réunit des gens qui sont d'accord pour dire que la Terre est plate, c'est la vérité scientifique. Donc c'est totalement anti-platonicien, comme tu sais, l'opinion et la vérité. Ben là, la vérité, ça n'est rien d'autre que le marché des opinions.
Comment du coup ce techno-fascisme peut-il cohabiter, peut-il émerger historiquement dans l'hégémonie culturelle libérale?
Mais à partir du moment où l'hégémonie culturelle libérale se révèle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une hypocrisie, une hypocrisie permettant le monopole de pensée et de vision du monde d'une classe dominante. À partir de ce moment-là, il faut bien que les autres, on les encadre. Il faut bien que les masses, on les encadre. On y reviendra sûrement, mais on voit bien comment aujourd'hui, cet encadrement est en train d'opérer au niveau de la classe moyenne. On voit bien comment, progressivement, à partir du moment où l'autorité pour soumettre ne peut plus être simplement le fait, non seulement d'une autorité, pour aller vite, établie sur la hiérarchie, sur les hiérarchies de naissance, ça c'était la vieille, le vieux pouvoir aristocratique, ni même sur une hiérarchie je dirais, de fonction ou de valeur, par exemple républicaine, avec bien sûr la vertu, la sagesse, etc., il faut bien faire reposer la soumission sur une autre logique. Alors, encore une fois, moi je ne crois pas à la thèse du complot, hein, on ne l'a pas fait exprès, on ne s'est pas réunis pour moi. Mais progressivement, s'est mis en place une logique de soumission qui repose tout simplement sur une critériologie favorisant, je dirais, toutes les valeurs de la modernité liées à cette révolution industrielle, c'est-à-dire la productivité, c'est-à-dire la quantification, c'est-à-dire tout ce qui est formalisation, tout ce qui est procédure, tout ce qui est standardisation. Je dirais la vie, la reproductibilité technique de la vie, pour parler un peu à la manière de Benjamin, se met en place en faisant croire d'ailleurs qu'on est libre. Parce que de manière oxymorique, le coup de génie aujourd'hui du libéralisme, c'est finalement de dire vous êtes d'autant plus libre qu'on vous dit ce que vous devez faire, quoi. Comme disent les psychologues sociaux, comme Beauvoir et autres, c'est en gros, vous êtes libre, mais par un certain nombre d'actions que l'on vous soumet à accomplir et que vous devez accomplir, sinon vous êtes devenu invisible, vous êtes d'autant plus libre que vous êtes juridiquement encadré. Je crois que ça aussi est techniquement encadré. Je crois que c'est un point essentiel. Pour aller vite, juste dire quand même qu'à la fin du 19e siècle, justement, on voit bien que cette crise des valeurs libérales qui s'avèrent en contradiction avec la réalité sociale qui est de plus en plus visible. Cette crise, elle va déboucher vers des propositions alternatives, comme Proudhon, Marx, etc., mais Leroux et autres, mais elle va aussi déboucher sur la montée de nouveaux mouvements nationalistes, à la Barrès, etc., voire à des mouvements que Ziff Sternel appelle fascistes à la française, c'est-à-dire antisémites, c'est-à-dire d'extrême droite et autres. La Troisième République en France a réussi un coup pas trop mauvais à ce niveau-là, face justement à. Même si ça va déboucher sur des formes de colonisation, même si ça va déboucher sur un certain nombre, je dirais, de défaites sociales, il n'empêche que c'est peut-être un des gouvernements qui a le mieux réussi, à mon avis, hein, à régler cette crise des valeurs libérales et de la réalité sociale quotidienne. Je crois qu'on n'en a pas fini de cette histoire-là, que, en gros, cette crise d'identité du libéralisme va déboucher, notamment sur l'affrontement nationaliste de la Première Guerre mondiale, cette crise du libéralisme. Je crois que ça va être encore recyclé et refondé autrement avec l'émergence des systèmes, des régimes totalitaires entre les deux guerres, pour aller vite. J'inclus, bien sûr, comme Anna Arendt, j'inclus le stalinisme dans la bande des totalitarismes. Je crois que le néolibéralisme qui va dont les germes existent déjà avec les ordos libéraux et autres, entre les deux guerres, bien s'entendre, mais ou avec Hayek un peu plus tard après la Deuxième Guerre mondiale, pour aller vite, je crois que le néolibéralisme, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, l'effondrement d'un discours d'émancipation que pouvait constituer le communisme. C'est-à-dire que le 1989, c'est l'écroulement du mur de Berlin, donc c'est l'effondrement matériel dans la bipolarité du monde, mais cet effondrement matériel n'est possible que parce que déjà le discours communiste et en particulier le socialisme des pays de l'Est s'effondre complètement depuis déjà longtemps, pour aller très vite, hein, au moins 20 ans, et n'est plus crédible. Là aussi il y a une crise de légitimité. Donc, comme l'antidote au libéralisme devient un discours qui devient lui-même illégitime, alors on aboutit là, vraiment, c'est l'autoroute, à mon avis, pour le néolibéralisme, mais qui, et je termine juste là-dessus, mais qui, à mon avis, pose un nouveau problème, parce que le néolibéralisme, tel que justement il est pratiqué, c'est non seulement cet individu auto-entrepreneur de lui-même, comme dit Foucault, hein, le néolibéralisme fait litière, il met dans un linceul, il enterre le libéralisme. Parce que justement, que ce soit par cette conception du sujet humain, ou que ce soit par cette espèce de mondialisation, de la financiarisation de l'ensemble des activités humaines, je trouve qu'on aboutit à ne plus pouvoir croire à la promesse libérale.
D'ailleurs, tu dis, je crois que c'est dans Un monde sans esprit, tu as cette phrase que j'aime beaucoup, tu dis, on nous oblige à être pratiquants, mais nous ne sommes plus croyants.
Voilà.
Je trouve que c'est très très justement dit. Plus personne ne croit dans ce qui reste du vernis, disons, je te dis un peu violemment peut-être, du vernis libéral d'émancipation du sujet, on nous oblige à faire comme si, mais en fait, plus personne n'y croit. Alors, pour rebondir sur quelque chose que tu disais juste avant par rapport à la Troisième République, tu disais que la Troisième République avait réussi à trouver une espèce de modus vivendi, comme ça, avec le libéralisme. Est-ce que tu seras d'accord pour dire que là où ça fonctionne, c'est parce que la Troisième République était porteuse de grandes fictions, justement. Ça, on va revenir sur la question de la fiction, qui est très importante dans ton travail, et surtout dans le dernier Un monde sans esprit. Fiction du progrès. Fiction de l'amélioration des conditions de travail, fiction de la civilisation triomphante de la barbarie. Alors, même si ces fictions ont servi, y compris à justifier des horreurs totales comme la Première Guerre mondiale, comme la colonisation, etc., etc., il n'empêche qu'on y croyait, quoi. Et c'est l'instituteur, voilà, l'une des grandes figures, c'est l'instituteur, le hussard noir de la République qui vient apporter de force presque la civilisation aux petits paysans, quoi.
Non, mais je crois que effectivement, il y a d'ailleurs au cours de la Troisième République quand même aussi, je dirais, des valeurs républicaines. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui veut, au moins dans certaines composantes du gouvernement, qui veut, on va dire, l'éducation, qui veut la laïcité, qui veut les lois de protection sociale. Donc il y a quand même quelques beaux restes. Je dirais que c'est peut-être la Troisième République qui a le mieux recyclé les illusions libérales. Voilà. Alors bien sûr, il y a un universel qui va se transformer en impérialisme. C'est l'époque aussi qui le veut, d'une certaine manière.
Bien sûr.
Mais bon, il y a là quelque chose qui est... Bon, et puis, effectivement, comme tu le dis très bien, il y a ces fictions qui permettent de sacraliser quelque part la vie publique, la vie politique. C'est quand même l'époque des grandes cérémonies. Pasolini montre bien, justement, qu'à un moment donné... La société du marché et du spectacle, pour parler comme Guy Debord, n'a plus besoin d'autres valeurs que d'elle-même. Elle est devenue sa propre fiction. Elle n'a plus besoin de s'appuyer sur d'autres valeurs, sur d'autres fictions pour se légitimer. Elle s'est auto-référencée quelque part. Et c'est là où, à mon avis, elle est une forme de totalitarisme. Parce qu'effectivement, elle n'admet pas de reste hétérogène à sa vision du monde et à sa valeur.